Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette derrière le micro pour ces 28 prochaines minutes pour l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Dans les dernières années, on a beaucoup entendu parler d'intimidation chez les jeunes, une réalité qui est de plus en plus connue, mieux connue, du moins dans nos écoles, dans les cours d'école, et que l'on tente de prévenir par différentes actions, différentes campagnes de sensibilisation, des politiques même. Ce qui est toutefois un petit peu moins connu, c'est l'intimidation chez les aînés. Oui, attachez-vous bien, c'est un phénomène qui est bien présent dans certains milieux et dont on parle pas du tout. Le carrefour gérontologique de la région de Chaudière de Québec et de Chaudière-Appalaches se tenait vendredi dernier à l'Université Laval et le grand thème de cette journée de discussion était l'intimidation des aînés par les aînés. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, je parlerai avec Éric Sédan, le président de l'Association québécoise de gérontologie. On pourra en apprendre davantage sur ce phénomène qui est assez inquiétant. Et puis, le 20 juin dernier, il y a une loi assez importante qui est entrée en vigueur, la loi 41, qui est peut-être un petit peu passée sous votre nez et pourtant qui est une loi assez importante parce qu'elle pourrait changer votre quotidien, améliorer, je dirais, votre quotidien, celui de votre famille et également qui change la pratique de la pharmacie telle qu'on la connaît parce qu'elle permet aux pharmaciens une toute nouvelle pratique, de nouvelles activités professionnelles. Comment on peut démystifier cette loi-là pour peut-être mieux l'utiliser? J'en parle à l'instant avec Bertrand Bolduc, lui président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bertrand Bolduc, bonjour.
Bonjour.
Les pharmaciens, ce sont peut-être, M. Bolduc, les professionnels de la santé qui sont les plus accessibles. Et pourtant, je le disais tout à l'heure, on dirait que la loi 41, c'est une loi qui est un petit peu passée sous le nez de bien des gens. J'en parlais autour de moi. Les gens ne connaissaient pas la loi 41. Est-ce que c'est voulu parce que vous voulez un petit peu peaufiner cette loi-là auprès de vos 9000 membres? Ou, bon, c'est juste comme ça, on prend le temps de bien l'expliquer tranquillement?
Bon, on prend le temps de bien l'expliquer aux gens, certainement, mais on peut dire que les presque 2000 pharmacies du Québec sont déjà à l'œuvre au service des gens. C'est-à-dire que si une personne a une condition mineure ou une situation où le pharmacien peut aller encore plus loin qu'avant, mm-hmm. ils peuvent se présenter à la pharmacie dès maintenant et en profiter.
C'est quoi la loi 41?
Bien, essentiellement, c'est des nouvelles activités des pharmaciens qui permettent aux pharmaciens d'aller un petit peu plus loin. Mm-hmm. Avant, on vous remettait vos médicaments lors d'une prescription et on vous conseillait sur les médicaments en vente libre. Là, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on vous prend en charge pour certaines choses qu'on appelle les conditions mineures. J'aime pas le mot conditions mineures, j'aimerais ça conditions fréquentes.
Mm-hmm.
Et
oui.
Par exemple, vous avez une situation où vous avez une infection urinaire qui est récurrente. Ça arrive souvent, surtout chez les femmes, qu'on fasse une infection urinaire à répétition pendant l'année. Et si vous avez eu une infection dans les 12 derniers mois et que ça revient, pas trop souvent, mais que ça revient, mm-hmm. votre pharmacien pourrait vous represcrire le même traitement que vous avez déjà eu. Donc, il n'y a pas besoin de diagnostic. Vous sentez bien que c'est la même chose qui vous est arrivée la dernière fois. Et on vous évite d'aller à l'urgence ou aller à la clinique. Ça, c'est une situation qui est désagréable, qui n'est pas si mineure que ça, mais qui où le pharmacien peut jouer un rôle en avant et aider les gens à sauver du temps, à sauver des sous et à sauver beaucoup de désagréments.
Oui. On pourrait penser aussi à l'arrivée d'une famille avec un enfant qui a une otite. Au cours d'un week-end, la dose est pas approprié le pharmacien la dose.
Tout à fait. Alors, on ne remplace pas le médecin. Évidemment, on ne fera pas le diagnostic de l'otite, mais supposons que vous avez vu le médecin et que pour une raison ou pour une autre, la dose n'était pas exactement la bonne parce que pas eu le temps de peser l'enfant ou etc. Ou encore, votre petit garçon, il a 8-9 ans, on lui a prescrit des capsules, mais lorsqu'on voit la taille de la capsule, ben oups, on se trouve que c'est pas mal gros. Mm-hmm. On pourra le changer pour la version suspension liquide. Donc, on peut ajuster, modifier les doses pour éviter les effets secondaires, pour améliorer l'adhésion au traitement. Donc, un paquet de petits trucs où avant, on avait besoin d'appeler les médecins, et jusqu'à un certain point, on les dérangeait un petit peu pour rien. Mm-hmm. Mais là, on va plus loin. Un autre exemple, c'est les conditions qui n'ont pas besoin de diagnostic. Par exemple, il commence à faire froid, vous avez sûrement le goût d'aller dans le sud,
oui.
Vous achetez des billets avec votre mari pour aller en République dominicaine, puis vous vous dites, bon, ben, je veux pas manquer mon voyage, je veux pas avoir de diarrhée du voyageur, etc. Ben, auparavant, pour avoir l'antibiotique en cas de diarrhée du voyageur, vous deviez consulter un médecin ou une clinique de voyage. Maintenant, vous pouvez aller à la pharmacie et le pharmacien pourra vous faire la consultation et vous procurer ces trucs-là. Alors, vous sauvez du temps, vous sauvez des désagréments et j'espère vous passer un beau voyage.
Oui. Je pense à d'autres conditions fréquentes, M. Bolduc, entre autres choses, une conjonctivite, par exemple. Est-ce que je pourrais aller directement voir mon pharmacien?
Bien, on peut déjà y aller lorsqu'on a un problème d'œil. Les pharmaciens, on a un petit rôle là, de triage, si vous voulez. Oui. Donc, on va évaluer si on peut vous aider avec un médicament en vente libre, là, comme les gouttes de polysporin. Et si oui, on va le faire avec plaisir. Mais si vous avez des douleurs, une vision trouble, une sensibilité là, à la lumière, bien, c'est sûr qu'on va vous envoyer consulter un autre professionnel, que ce soit un médecin ou un optométriste dans le cas d'une conjonctivite, là, qui serait peut-être d'autres choses, qui auraient des signaux d'alarme. Mm-hmm. Donc, même chose, une autre situation, c'est souvent les feux sauvages qui reviennent.
Ouais, ouais.
Alors ça, c'est vraiment désagréable pour toutes sortes de raisons. Puis là, les fins de session arrivent, les étudiants stressent, des fois, ça ressort. Donc, on pourra represcrire le médicament en question que la personne a déjà eu dans les 4 dernières années si ça se met à réapparaître.
Donc, des prolongements d'ordonnance.
Oui. Une autre chose qu'on peut faire, c'est des prolongements d'ordonnance. À certaines conditions, évidemment, encore là, le but n'est pas de remplacer le médecin, mais d'assurer une continuité de traitement. Et souvent, les gens ben, manquent leur rendez-vous ou n'ont pas de rendez-vous chez le médecin de prévu, les prescriptions viennent échues, ou perdent leur médecin pour une raison de déménagement ou de prise de retraite du médecin. Alors, ils deviennent un peu orphelins. Pour éviter qu'il y ait une visite à l'urgence dans une clinique sans rendez-vous, juste pour represcrire des médicaments alors que tout va bien, le pharmacien devient votre prescripteur temporaire, il faut bien le mentionner, temporaire, le temps que vous trouviez un médecin de famille et qui pourra vous évaluer et poursuivre les choses.
Est-ce qu'il pourrait également y avoir des substitutions d'un médicament, c'est-à-dire que le pharmacien dise ben, « je pense que ça vous convient davantage, ça aura à peu près le même effet, par exemple? »
On va faire ça dans une situation qu'on appelle une substitution thérapeutique, donc dans la même classe de médicaments, seulement si on a une rupture d'inventaire. Et j'ai pas besoin de vous dire que ça arrive de plus plus fréquemment et c'est un gros problème. Alors, vous arrivez à la pharmacie, au lieu de vous dire « Ah, j'ai plus votre médicament, il est en back order, je suis obligé d'appeler votre médecin », on va s'asseoir ensemble, on va dire « Bien, je pourrais vous changer pour un autre médicament de la même classe, à peu près au même dosage équivalent, et normalement, tout devrait bien aller. » Donc, on s'assure encore là d'une continuité de traitement.
Mm-hmm. Bien sûr, tout ça, c'est pour désengorger le système à quelque part, mais c'est pas une invitation à voir moins souvent notre médecin.
Absolument pas. Nous, on n'est pas là pour remplacer les médecins. On est là pour rendre la vie du médecin plus facile et de s'assurer que lorsque vous allez consulter votre médecin, c'est pour les bonnes raisons, pas pour des raisons que je qualifierais d'administratives ou de conditions que vous avez déjà eues et que vous êtes capable de diagnostiquer. Je donne souvent la comparaison. Il faut continuer à faire l'entretien de notre auto. C'est bien important. Mais si vous avez un phare avant qui brûle, ou un essuie-glace qui fonctionne pas bien, ben nous, on peut vous changer les pièces sans problème. S'il y a un son bizarre qui sort du moteur, malheureusement, on rouvre pas le capot pour jouer au mécanicien. Mais lorsque les choses sont assez simples, évidemment, on peut le faire facilement.
Monsieur Bolduc, il y a 9000 membres au sein de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Est-ce qu'ils sont contents de cette nouvelle loi-là?
Oui, je pense que tout le monde est content de pouvoir pratiquer selon son niveau de compétence et les gens sont tous prêts, que ce soit en milieu officinal ou en milieu hospitalier. Ceci étant dit, il faut savoir que ça demande un petit peu plus de temps. Alors, il ne faudra pas se surprendre que des fois, à la pharmacie, on va vous demander soit de prendre rendez-vous si ce n'est pas urgent ou d'attendre un petit peu, là, mais on ne parle pas de grande attente, évidemment, parce que ça doit se placer dans la logistique de travail. Mais oui, je pense que les gens, en général, sont contents. Évidemment, ça nous amène à faire des choses et d'avoir une relation encore plus étroite avec les patients, ce qui est bien le fun.
Et ça vous amène aussi à avoir de nouvelles responsabilités. Est-ce que vos membres auront besoin de formation?
Bien, la formation pour toutes ces activités-là est déjà faite depuis un certain temps. D'ailleurs, ça a débuté le 20 juin, mais ça faisait un petit bout qu'on attendait. On s'était supposé entrer en vigueur en septembre 2013. Alors, tout le monde était vraiment prêt. Donc, ça, c'est pas un problème. La seule activité nouvelle qui n'est pas en vigueur parce que la formation est à venir, c'est l'administration de médicaments pour fin de démonstration. Alors, on va bientôt former les pharmaciens à administrer des médicaments, par exemple, en sous-cutané ou en intramusculaire, pour vous montrer comment ça fonctionne.
Mm-hmm. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Bertrand Bolduc, il y a 2000 pharmacies au Québec.
À peu près.
N'importe quelle personne qui nous écoute en ce moment, parce que Canalem est diffusé partout au Québec, que ce soit à Rouyn, à Mont-Laurier, au Saguenay, ici à Montréal, on peut se présenter dans une pharmacie et avec les grandes lignes qu'on a élaborées tout à l'heure, peut demander de l'aide de son pharmacien.
Absolument. J'invite les gens aussi à visiter notre site web opq.org et cliquer sur « Nouvelles activités du pharmacien » pour en savoir plus, pour voir si leurs conditions correspondent à peu près à ce qu'on peut faire. Il y a 23 conditions fréquentes là, qu'on peut travailler avec les gens et il y a toutes sortes de situations qu'on peut vraiment les aider à sauver du temps et des tracas.
Mm-hmm. Est-ce que tout ça va occasionner des coûts pour les clients patients?
Bon, alors, 4 de ces 7 nouvelles activités-là, que ce soit la prolongation, la consultation pour les situations qui n'ont pas besoin de diagnostic ou les conditions mineures et les ajustements, sont couvertes par l'assurance médicaments, pas par l'assurance maladie. Mm-hmm. Alors, l'assurance médicaments, comme vous le savez, il y a toujours une petite contribution de l'usager, là, une portion que l'usager doit contribuer. La bonne nouvelle, c'est que vous soyez couvert soit par la RAMQ au public mm-hmm. ou par une assurance privée, bien, tout le monde est couvert pour les mêmes choses au même tarif. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et tout ça est à des coûts vraiment abordables.
Mm-hmm. On le disait, pas beaucoup d'inconvénients à cette loi 41. Peut-être s'attendre à un petit peu plus d'attente au comptoir, de devoir appeler pour prendre rendez-vous. Je me mets dans la peau des propriétaires, des pharmaciens propriétaires. C'est-à-dire qu'eux auront-ils l'impression qu'il faut faire plus avec moins de temps?
Bien, il faut faire plus, c'est certain. Avec moins de temps, ben là, ça dépend des ressources qu'on y consacre.
Mm-hmm.
On ne cachera pas que le monde de la pharmacie est un peu sous pression. Présentement, il y a eu des coupures de la part du ministère et c'est difficile pour les gens d'investir des nouvelles ressources dans tout ça. Fait qu'on essaie vraiment d'en faire plus pour les gens avec un peu moins. Je vous avouerai que c'est pas évident pour tout le monde dans le champ présentement, mais je pense qu'on y réussit assez bien. On veut démontrer à la population qu'on peut être beaucoup plus utile et on peut en faire plus. Ceci étant dit, il faut vraiment être réaliste et dire oui, ça se peut que ça se prenne un petit peu de temps, puis d'être un peu compréhensif envers nos pharmaciens.
Bertrand Bolduc, je cite votre collègue Olivier Bernard, mieux connu sous le terme du pharmacien, qui disait il n'y a pas une ligne pour rejoindre directement un médecin. Ce qui est formidable avec un pharmacien, c'est qu'on peut appeler à peu près dans n'importe quelle pharmacie au Québec et parler directement, rapidement, à un spécialiste de la santé, le spécialiste des médicaments, c'est-à-dire le pharmacien, ça a quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Et évidemment, cette loi 41 va changer la pratique de la pharmacie telle qu'on la connaît maintenant. À quoi on peut s'attendre comme changement de pratique?
Bien, c'est ça. Les pharmaciens peuvent aller plus loin. Je pense que c'est juste un début. Il faut comprendre que même au Québec, on rattrape les autres provinces à ce niveau-là. Mm-hmm. On n'était pas des innovateurs. On est plus des gens qui rattrapent les autres provinces. Dans d'autres provinces, les pharmaciens peuvent vacciner les gens. On n'a pas ça encore au Québec. Ça viendra peut-être un peu plus tard. Donc, oui, les gens vont pouvoir s'attendre, que ce soit en pharmacie, avec les infirmières, les physiothérapeutes, les autres, les psychologues, tous les autres professionnels de la santé sont mm-hmm. en mesure d'en faire un petit peu plus, puis on va voir cette tendance-là s'accentuer dans les prochaines années. Tout ça au bénéfice de la population.
Oui, toujours. Et d'être encore plus près d'eux, on le sait, avec ces enjeux-là, au point de vue du vieillissement de la population, je pense qu'il y avait vraiment une prise de position à prendre. En terminant, est-ce que tout ça va vous amener à être plus en contact avec les médecins?
Oui. Le but de tout ça, c'est de ne pas travailler moins avec les médecins. Au contraire, à chaque fois qu'on pose une de ces nouvelles activités-là, il y a un formulaire de liaison qui est envoyé au médecin traitant qui de ça. Le médecin demeure le chef d'orchestre dans tout ça et chacun des instruments contribue à faire une belle musique, si je peux dire. Donc, non seulement on peut en faire plus, mais on va travailler encore de plus près avec, que ce soit les médecins, les infirmières, les autres professionnels de la santé, parce que le travail d'équipe nous donne un meilleur résultat, plus d'accès à un meilleur coût.
Ouais. Et ben ça amoindrit le coût là aussi pour toute la société, cette loi 41. Bertrand Bolduc, merci de nous en avoir parlé aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Éric Sédan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de l'Association québécoise de gérontologie. Et là, pour nous faire un retour sur le carrefour gérontologique de la région de Québec-Chaudière-Appalaches qui se tenait vendredi dernier à l'Université Laval du côté de Québec sous le thème « L'intimidation des aînés par les aînés ». Tout d'abord, Éric Sédan, c'est un phénomène dont on ne parle pas, l'intimidation des aînés par les aînés. On en a parlé beaucoup dans les dernières années chez les jeunes. Chez les aînés, comment ça se traduit? Par quel genre de comportement?
Ben, écoutez, il y a des similitudes entre l'intimidation chez les jeunes et chez les aînés, c'est certain. Mais vous avez raison d'abord de dire qu'on n'en parlait pas beaucoup. Effectivement, on a toujours tendance à penser que lorsqu'on parle d'intimidation, on pense aux jeunes, on pense aux cours d'école, oui. J'ai tendance à dire, et puis on pense peu aux aînés. Alors oui, il y a de l'intimidation des aînés, il y a de l'intimidation qui est faite auprès des aînés par d'autres aînés également, dans certains milieux de vie collective par exemple. Sont des choses qui existent.
Oui. Mm-hmm. Mais ça, concrètement, ça va se traduire par des insultes, par des menaces?
Alors, l'intimidation, l'intimidation, tout d'abord, c'est la volonté de prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, mm-hmm. ça peut être physique, ça peut être verbal, ça peut être psychologique, oui. Alors, l'intimidation a plusieurs formes. On pourrait rentrer dans le détail, si vous voulez, mais ce qu'on rencontre, c'est une intimidation verbale, en général, c'est qui est la plus visible.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ben oui, mais je veux bien entrer dans les détails parce qu'on est là pour ça et qu'on a le temps de le faire, Éric Sédan. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à le communiquer de façon concrète parce que, puisque c'est un phénomène dont on ne parle jamais ici au Québec pour je ne sais quelle raison, je pense qu'on a vraiment intérêt à bien vulgariser le sujet pour que les gens comprennent. Est-ce que l'intimidation des aînés par les aînés se passe plus souvent en résidence?
Ah non, ça serait difficile. Il ne faut pas laisser, cette idée s'installer que les résidences seraient un endroit serait l'endroit où il y ait de l'intimidation, parce que ça voudrait dire qu'ailleurs ça n'existe pas. Les résidences, les CHSLD sont des endroits collectifs où les gens habitent ensemble en permanence, donc la proximité reste favorable à partir du moment où il y a proximité. C'est un peu là l'équivalence des cours d'école. Il y a proximité, il y a répétition de la rencontre, et donc effectivement c'est favorable. Mais on pourrait rencontrer de l'intimidation dans un club d'aînés où les gens se retrouvent régulièrement, par exemple. Hein, donc effectivement. Mais si vous voulez, je peux vous donner la définition de la maltraitance.
C'est intéressant parce que moi, ce qui me mélange, c'est il y a de la maltraitance, il y a de l'agisme, il y a de l'intimidation. Comment on fait pour se dépatouiller entre ces trois phénomènes-là?
Tout à fait. Alors, je vous dirais bien que la frontière est floue. Hein, donc c'est sûr qu'il n'y a pas une frontière bien tranchée. Là, on est dans un cas de maltraitance et puis hop, on franchit un pas et puis on est dans l'intimidation. Il y a beaucoup de points communs. Cependant, la maltraitance est généralement associée à une relation de confiance, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'intimidation. Ça dépasse le cadre de la relation de confiance pour l'intimidation. Et l'agisme, c'est un phénomène d'exclusion lié à l'âge, évidemment. Et donc, on va retrouver une espèce de cercle vicieux autour de ces trois thèmes-là, si vous voulez, qui touchent les personnes les plus vulnérables. Hein, donc ensuite, la vulnérabilité peut entraîner l'isolement, le retrait, l'exclusion, et puis à partir du moment où tout ça est mis en place, la personne redevient plus vulnérable pour la maltraitance, l'intimidation ou même l'agisme.
Est-ce qu'il y a un profil type de l'intimidateur chez les personnes aînées?
Non, pas nécessairement. C'est quelqu'un qui veut prendre le... c'est quelqu'un qui veut prendre le contrôle sur les autres. L'intimidateur est quelqu'un qui va vouloir prendre le contrôle. C'est quelqu'un qui va chercher du pouvoir aussi. Hein, donc c'est une personne qui veut être en position de pouvoir ou de contrôle. C'est quelqu'un qui va utiliser la force et le contrôle dans le but de retirer des bénéfices aux dépens de la personne qui va intimider. C'est aussi quelqu'un qui va retirer une certaine valorisation liée au fait que les autres se sentent menacés. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a une difficulté à tolérer les différences, qui manque d'empathie, qui a peu de relations sociales positives ou qui a une faible estime de soi. On va retrouver ces profils-là auprès des personnes qui intimident.
Oui. Je lisais ça m'apparaissait plutôt intéressant. C'est que parfois, chez les personnes aînées, il y a des troubles cognitifs qui s'installent et qui peuvent entraîner un changement dans les comportements. Donc, des personnes qui, sans s'en rendre compte, qui n'auraient pas ce profil-là à la base, deviennent des intimidateurs.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que l'intimidation est généralement intentionnelle. Hein, on n'intimide pas par erreur ou par hasard. Hein, donc l'intimidation est intentionnelle, excepté pour des personnes qui pourraient avoir certaines atteintes cognitives. Là, on est dans l'exception. Donc on va parler de personnes qui, du fait de leurs atteintes cognitives, vont avoir des comportements qui peuvent être intimidants. Et lorsque ces comportements s'opèrent vis-à-vis d'une personne qui est plus vulnérable, effectivement, on peut parler d'intimidation non intentionnelle du fait de la perte de facultés cognitives.
Et chez les intimidés, la tendance semble révéler que les femmes sont plus à risque d'en subir de l'intimidation.
Les femmes peuvent être... d'abord, elles sont plus nombreuses dans la population aînée. Donc, il faut prendre ça en compte déjà. Et puis ensuite, peut-être qu'il y a un autre phénomène qu'il faudrait un peu plus regarder à la loupe, si vous voulez bien, c'est que les hommes en parleraient peut-être moins de l'intimidation lorsqu'ils la subissent.
Oui, ça, c'est un bon point. Oui, c'est assez intéressant. Maintenant, est-ce qu'il est possible, dans les différents milieux, de prévenir l'intimidation chez les aînés?
Oh, bien sûr qu'on peut toujours prévenir l'intimidation chez les aînés. Bien sûr qu'on peut. C'est même le but de toute l'information que l'on fait dans ce sens auprès des intervenants. On pourrait déjà faire connaître un peu plus le phénomène de l'intimidation pour que les personnes qui en sont victimes puissent le verbaliser. Déjà, ça serait une bonne chose. Hein, donc, de parler, de pouvoir parler. Donc, de pouvoir, et pour pouvoir en parler, il faut d'abord pouvoir identifier. Hein, et là, que ce soit la maltraitance, l'agisme ou l'intimidation. Si on ne perçoit pas qu'on est dans ce carcan-là, eh bien, c'est difficile de le verbaliser, de poser des mots. Donc, le fait de connaître un peu le sujet et de savoir que ça existe, de savoir que c'est possible et de savoir qu'on en est touché, va peut-être aider à verbaliser. Ensuite, une fois qu'on a verbalisé, ben, il faut aussi savoir s'entourer. Il faut permettre aussi, quand on dit il faut informer les personnes aînées, mais aussi toutes les personnes qui travaillent autour des personnes aînées pour pouvoir identifier le phénomène et pouvoir briser un peu le cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure, donc d'éviter l'exclusion qui va rendre la personne encore vue plus vulnérable et peut-être aussi plus fragile par rapport à des intimidateurs ou des gens qui seraient qui aimeraient prendre un certain contrôle sur cette personne-là.
Ouais. Et il y a aussi différents recours, je pense, entre autres à cette ligne formidable, gratuite, confidentielle, 7 jours, de 8h à 20h, la ligne Aide abus aînés. Ça a été mis en place de quelle façon, Éric Sédan?
La ligne Aide abus aînés, elle a été mise en place quand on parlait, à la période où on parlait beaucoup de maltraitance. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette ligne existe et de diffuser largement son numéro, d'ailleurs le 1-888-489-2287. Je profite d'être à votre antenne pour le dire. Et donc la ligne abus aînés va faire un rôle, comme l'ensemble des lignes d'écoute aussi qui existent. Hein, il y a plusieurs, dans chaque région, il y a des lignes d'écoute. Et donc j'inviterai toutes les personnes intimidées à utiliser l'une d'entre elles, principalement la ligne abus aînés dans ce sens-là, mais peut-être celle avec laquelle elles ont l'habitude, si elles ont des habitudes dans ce sens-là. Les intervenants, c'est important aussi qu'ils connaissent la ligne abus aînés, hein, lorsqu'ils sont... qu'ils voient...
Oui, et les proches aussi, les familles,
les
petit enfant, l'enfant, de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe.
Absolument.
Il reste peu de temps, Éric Sédan, terminant...
Oui, me permettre.
Oui, il reste une minute.
Vous parliez des pistes de résolution. On a parlé des intervenants, on a parlé de la personne elle-même, mais les familles aussi doivent être attentives à ce qui se passe chez les personnes plus âgées au sein de leur famille.
Oui. On suivra de près ce qui se passe du côté de l'Association québécoise de gérontologie parce que vous avez plusieurs activités, des campagnes de sensibilisation également.
Parfait.
Et c'est bien vivant ce que vous faites et important pour les personnes aînées et leurs familles. Merci beaucoup, Éric Sédan. Je rappelle que vous êtes le président de cette association.
Merci beaucoup, Mme Paquette, et merci à tous les auditeurs. Au revoir.
Au revoir. Demain, vendredi, on vous parle de comment on peut soutenir une famille qui vient d'apprendre le diagnostic d'un enfant malade ou handicapé auprès de l'Étoile de Pachot, et aussi comment régler les problèmes de ronflement. Hein, ça, c'est avec l'infirmière Jocelyne Gadebois. Soyez là demain, 14h. Ça sera un plaisir de vous parler pour la dernière de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, Mathieu Tessier. Bye-bye.